Suivez Priorité Santé avec Suno Assurance, qui a le bon profil pour vous accompagner durant cette année d'excellence. Bonne année.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, Priorité Santé vous emmène en Tanzanie pour parler de la lutte contre le cancer. Une maladie qui est devenue, dans ce pays d'Afrique de l'Est, un véritable problème de santé publique. À l'instar d'autres maladies non transmissibles, comme le diabète et l'hypertension, le cancer touche de plus en plus de personnes, de femmes notamment. Pourtant, la maladie reste mal comprise au niveau des communautés, ce qui complique sa prise en charge, ce qui freine plus généralement la lutte contre le cancer. D'un côté, il y a les fausses croyances, mythes, dérives religieuses, autant de sources de désinformation qui ne permettent pas à la population d'appréhender correctement la maladie et l'éloignent des centres de santé et donc du dépistage comme des traitements. De l'autre, la Tanzanie, comme de nombreux pays africains, reste confrontée aux grandes maladies infectieuses comme le sida, la tuberculose, le paludisme, qui bien malgré elle font de l'ombre aux maladies non transmissibles qui ne bénéficient pas des mêmes budgets, surtout sur le plan de l'aide internationale. Et certains chiffres sont là pour nous rappeler ces insuffisances. En Tanzanie, plus de 60% des malades dépistés n'ont pas accès au traitement. Près de 80% des patients sont diagnostiqués à des stades avancés. Face à ce défi, le pays a initié un projet global de lutte contre le cancer. 13 millions d'euros sur 4 ans, lancés en 2020, financés principalement par la France via l'Agence française de développement et la Fondation Aga Khan. Le tout mis en œuvre par l'Institut Curie. Objectif, améliorer le dépistage et le traitement du cancer en luttant contre la désinformation, en renforçant les équipements du pays. Les défis, au pluriel, on l'a bien compris, les défis de la lutte contre le cancer en Tanzanie. C'est un reportage d'Igor Strauss, réalisé par Olivier Roux.
Priorité santé sur RFI.
Naitwa Ikanami Mshana. Mimi ni mama wa watoto wawili, ni wakubwa.
Je m'appelle Ikanami Mshana. J'ai 58 ans, je suis veuve et j'ai deux enfants. Je travaille pour la municipalité de Moshi où j'habite, c'est dans la région du Kilimandjaro. Quand le médecin m'a annoncé que j'avais un cancer du sein, ça n'a pas été facile. J'ai tout de suite pensé que j'étais condamnée, que c'était la fin pour moi. Et c'est aussi ce que m'ont dit les personnes à qui je l'avais annoncé. J'étais dévastée, je ne faisais que pleurer. Donc les premiers jours ont été très durs. Ça a été très difficile à accepter et tout ce que j'entendais autour de moi n'était pas très rassurant. Heureusement, les médecins m'ont parlé. Ils m'ont fait assister à des séances de sensibilisation et de conseils où on m'a dit que non, ce n'était pas la fin de ma vie. Et puis, j'ai aussi la chance d'avoir une sœur et un beau-frère médecin. Et eux aussi m'ont donné plein de conseils. Ils m'ont expliqué qu'il y avait des traitements et que si je les prenais correctement, tout irait mieux. Ils m'ont rassurée. Et puis, j'ai appris que je devais subir une mastectomie, qu'on allait m'enlever un sein. Et là aussi, ça a été un coup terrible. Pour moi, c'était comme devenir infirme. Je me demandais si je pourrais encore porter mes vêtements. Ça a été très difficile à accepter. Mais encore une fois, les séances de sensibilisation où on vous donne plein de conseils m'ont aidée. J'ai fini par accepter. Je me suis dit, ok, je vais faire cette opération. Parce qu'au début, il était hors de question qu'on m'enlève un sein. J'avais peur que le cancer progresse et qu'il faille m'enlever le deuxième sein. Et ça, je ne le voulais pas. C'était hors de question. Et puis, j'ai rencontré d'autres patientes qui avaient également eu un cancer du sein, à qui on avait ôté un sein. Et elles m'ont expliqué la vie d'après, m'ont soutenue, conseillée, encouragée. Et finalement, j'ai accepté l'opération et la chimiothérapie, car c'était la seule façon de m'en sortir.
Et est-ce que vous appréhendiez aussi la chimiothérapie? Et qu'est-ce que ça représentait pour vous, la chimiothérapie?
Ah, si, comme on n'est pas en groupe, hein? Lakini,
Au début, cela ne m'a pas effrayée. Comme je ne savais pas vraiment de quoi il s'agissait, je n'avais pas peur de la chimiothérapie. Et pourtant, on m'avait parlé des effets secondaires qui varient d'un patient à l'autre et qui peuvent être lourds. Mais pour moi, ce n'était pas un problème et je n'ai eu aucun souci à accepter le traitement. J'ai donc commencé ma chimiothérapie et là, j'ai compris ce qu'étaient les effets secondaires. J'ai perdu mes cheveux, la couleur de ma peau a changé, mes ongles sont devenus noirs. C'était comme si je me transformais. J'avais l'impression de devenir quelqu'un d'autre, de ne plus être moi puisque mon apparence changeait. Mais comme j'avais accepté de faire le traitement, je me suis dit qu'il fallait continuer, qu'il n'y avait pas d'autres options, que c'était comme ça et qu'il fallait que j'accepte les effets secondaire. Du coup, je ne me couvrais plus la tête alors que j'avais perdu mes cheveux. J'ai accepté de vivre comme cela durant le traitement.
Quand il y a toutes ces transformations physiques dues à la chimiothérapie, est-ce que c'est difficile d'affronter le regard des autres ?
C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas cette maladie, d'autres qui la connaissent mais qui ne sont pas au courant des effets secondaires, de la perte des cheveux ou des choses comme ça. Du coup, ils vous regardent bizarrement, ils pensent que vous êtes différente, étrange même. Mais cela ne m'a pas empêchée de continuer la chimiothérapie. Je n'ai jamais pensé à arrêter à cause de ça. Mais c'est vrai que parfois, ces regards sont pesants, car on vous fait comprendre que vous êtes différente.
Avec le recul, après toutes ces épreuves, est-ce que vous êtes toujours satisfaite d'avoir accepté le traitement ou est-ce que vous regrettez ?
Je pense que j'ai pris la bonne décision, que j'ai bien fait d'accepter le traitement. Comme je vous l'ai dit, j'ai rencontré beaucoup d'anciennes patientes et certaines sont guéries aujourd'hui, donc j'espère que ce sera mon cas. J'ai aussi vu des patients qui refusaient les traitements, la chimiothérapie, et aujourd'hui, ils sont dans un triste état. Donc malgré les effets secondaires, malgré la douleur, je suis convaincue d'avoir pris la bonne décision.
I'm Dr. Julius Moiselage. I'm the executive director of the Oceanland Cancer Institute.
Je suis le docteur Julius Moiselage, le directeur général de l'Institut du cancer d'Ocean Road. Le cancer est un problème de santé publique depuis de nombreuses années en Tanzanie et le cancer est en constante augmentation dans le pays. Cette année, nous avons enregistré environ 7000 nouveaux cas, alors qu'il y a une dizaine d'années, on était entre 2500 et 4000 nouveaux cas par an. Alors comment expliquer cette progression ? Tout d'abord, il y a les changements de mode de vie, puisque la Tanzanie a adopté un mode de vie occidental. Avant, on voyait des cancers liés à des infections, comme le cancer du col de l'utérus, le sarcome de Kaposi ou le lymphome. Mais maintenant, avec le changement de mode de vie, on voit des cancers liés à ces changements. Le cancer du sein est de plus en plus fréquent, comme le cancer colorectal. Mais on voit également des cancers liés au vieillissement de la population. Comme les gens vivent plus longtemps, ils développent des cancers avec l'âge, comme le cancer de la prostate. Donc le cancer est devenu un vrai problème dans ce pays. Et en raison de l'explosion du nombre de cancers, le ministère de la Santé de Tanzanie a décidé de faire de l'Institut du cancer d'Ocean Road un centre de traitement global du cancer pour faire face à ce problème dans le pays. Dorénavant, nous avons un programme complet basé sur la prévention, le diagnostic, les traitements et les soins palliatifs.
Cancer in the country. So that we can have a focused programs for prevention, for diagnosis, for treatment and palliative care.
Alors où en est la Tanzanie aujourd'hui dans la prise en charge des cancers? Où est-ce que vous vous situez et qu'est-ce qui manque encore au pays finalement?
Tanzania in terms of cancer care.
La Tanzanie est un des pays les plus avancés dans la prise en charge du cancer en Afrique de l'Est. Déjà, nous avons un centre dédié avec l'Institut du cancer d'Ocean Road, mais nous avons également l'appui et le financement du gouvernement pour acheter les traitements et du matériel. Donc nous avons beaucoup progressé en Tanzanie, en termes de prévention, de vaccination notamment contre le papillomavirus. Nous avons également fait des progrès en termes de diagnostic et de traitement. Nous avons deux machines de radiothérapie ici à l'Institut et nous allons en avoir davantage, notamment à l'hôpital à Gakan. Les médicaments disponibles ici sont les mêmes que ceux utilisés dans le monde, mais nous voulons encore plus. Alors qu'est-ce que nous voulons? Pour l'instant, nous n'avons que 48% du personnel requis pour s'occuper des cas de cancer. Donc nous voulons plus d'oncologistes, plus de radiothérapeutes, plus d'infirmières pour pouvoir traiter davantage et mieux les patients qui sont ici à l'Institut du cancer d'Ocean Road. Vous savez, ici, nous avons 331 personnes dans le staff, alors qu'il faudrait que l'on soit 600. Donc oui, nous voulons plus. Et puis nous avons un autre problème. On estime qu'il y a 42 000 personnes atteintes d'un cancer en Tanzanie, mais seules 14 000 sont suivies ici ou dans un autre hôpital du pays. Cela veut dire que nous suivons seulement un tiers des patients qui ont été diagnostiqués et qu'il manque les deux tiers. Et pourquoi ces patients ne viennent pas? D'abord, il y a ceux qui ne connaissent pas la maladie, car ils vivent dans les zones rurales. Et puis il y a ceux qui connaissent la maladie, mais qui préfèrent voir les tradis praticiens. Ça, c'est en train de changer petit à petit, et les gens viennent plus souvent nous voir à l'hôpital. Mais il faut reconnaître que le niveau d'éducation assez bas fait que de nombreux patients arrivent à des stades très avancés de la maladie. Et puis, même si nous avons de très bons hôpitaux dans le pays, il faut admettre qu'ils sont parfois très loin des villages où les gens vivent. Du coup, quand un agriculteur est diagnostiqué, mais qu'il doit faire des kilomètres pour aller à l'hôpital, c'est un problème. Cela prend du temps et cela coûte cher, donc les gens attendent. 70% des patients en Tanzanie arrivent avec des stades très avancés en raison de ces difficultés. Donc le pays fait beaucoup pour remédier au problème et que les patients arrivent plus tôt à l'hôpital. Nous avons donc établi une stratégie pour toutes ces maladies non transmissibles. Désormais, on doit pouvoir être diagnostiqué dans tous les dispensaires ou centres de santé du pays. Ensuite, chaque patient doit être référé dans un centre pour le traitement. Nous voulons aussi développer les agents de santé communautaire. Dans chaque région, dans chaque village, il doit y avoir des agents de santé communautaire qui sachent reconnaître les signes et les symptômes de la maladie pour emmener le patient au dispensaire. Tout cela devrait être effectif dans 3 ou 4 ans, dès que le programme de lutte contre les maladies non transmissibles sera appliqué partout dans le pays.
When we are going to implement the national, the non-communicable strategy for the country.
Igor Strauss, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
Alors vous étiez donc en Tanzanie pour Priorité Santé. À quoi ressemble cet institut du cancer d'Ocean Road? Et existe-t-il d'autres sites de ce genre où est proposée une prise en charge de ces cancers?
Alors l'Institut du cancer d'Ocean Road est un magnifique bâtiment colonial créé en 1890 et situé face à l'océan Indien. C'est donc un bâtiment dédié à la prise en charge du cancer, ce qui prouve l'intérêt grandissant du pays pour cette pathologie. Prévention, dépistage, traitement, suivi, on y exerce toutes les étapes de la prise en charge, sauf la chirurgie qui, elle, est réalisée dans le plus grand hôpital de Tanzanie, l'hôpital national de Muhimbili, qui est également à Dar es Salaam. Mais Ocean Road n'est pas le seul institut où l'on prend en charge les cancers. Il y a 5 autres centres dans tout le pays. Alors dans la zone des Grands Lacs, une zone où le nombre de cancers a explosé ces dernières années, dans la région du Kilimandjaro, dans la région centrale, Ambeya, c'est à l'ouest du pays, et enfin donc à Dar es Salaam avec l'hôpital de Muhimbili.
Et puis il y a l'hôpital Aga Khan, une structure privée extrêmement moderne.
Oui, l'hôpital Aga Khan est flambant neuf, situé à quelques centaines de mètres à peine de l'Institut du cancer Ocean Road, toujours face à l'océan Indien. Alors la construction de cet hôpital a commencé en 2000, puis en 2014, les programmes d'oncologie et de cardiologie ont vu le jour. En 2018, c'est la deuxième phase de la construction de l'hôpital qui est lancée, avec une extension de 170 lits supplémentaires. Alors il y a également une unité d'ophtalmologie, on y trouve de nouveaux appareils de radiothérapie pour le traitement des cancers, un centre de mammographie moderne, un scanner, bref, c'est le centre le plus moderne et le plus complet du pays. Mais c'est un centre privé et donc payant, Caroline, dans un pays où seuls 20% de la population à peine a accès à une assurance. Heureusement, la fondation Aga Khan prend également en charge des personnes démunies. En gros, les plus riches paient pour les plus pauvres et cela permet bien de désengorger Georgie, l'Institut du cancer d'Ocean Road, qui prend en charge 400 patients par jour alors qu'il manque de médecins et de personnel soignant.
Alors, ce constat d'un manque de médecins spécialisés et de personnel soignant, mais au niveau des équipements pour la prise en charge des cancers, Igor Strauss, où en est le pays, où en est la Tanzanie ?
Eh bien, pour vous donner un exemple, selon les recommandations de l'OMS, un pays devrait avoir un appareil de radiothérapie pour 1 million d'habitants. La Tanzanie compte environ 60 millions d'habitants et seulement 7 machines de radiothérapie. Pour une même population, la France a 900 appareils. Autre exemple, eh bien, la mammographie est loin d'être disponible dans tout le pays et d'autres équipements sont vieillissants, bien que toujours utilisables. Mais pour Pierre Anouri, le directeur des relations international de l'Institut Curie, que vous entendrez tout à l'heure, eh bien, les équipements ne sont pas réellement le problème, même s'ils en font partie. Non, pour lui, le vrai problème, c'est que les gens ne se font pas dépister, même quand il y a les équipements.
Alors Igor, on va vous suivre maintenant dans un hôpital de district, à 1 heure de route de ce centre de Dar es Salaam, la grande ville de Tanzanie, pour évoquer justement ce problème du dépistage. Et vous êtes en compagnie de Raphaël Yumba, qui est infirmière, ainsi que du docteur Irène Ketegwe.
In this hospital, per day we can receive patients more than 100.
Ici, dans cet hôpital, on peut recevoir jusqu'à 1000 patients par jour. Mais pour le dépistage, ça dépend. Des fois, c'est 20 personnes, des fois, c'est 10.
Some other days, we get 20 clients, 15 to 10.
Donc ici, c'est vraiment l'hôpital typique africain, un hôpital de district, beaucoup, beaucoup de monde à l'intérieur, des murs en béton, des petites fenêtres, c'est assez sombre. On monte à la maternité, c'est ça ?
Yes, it is maternity.
Oui, on va à la maternité parce que c'est là qu'on a installé la salle pour le dépistage. Pour ce service de santé maternelle et reproductive, nous ne sommes que 3 infirmières.
We have only 3 nurses who are screening.
Et c'est assez ?
It is not enough, but because of...
Non, ce n'est pas assez. En raison du manque de personnel, c'est difficile de s'occuper de tout le monde. Donc ici, c'est notre salle. Et dans cette salle, nous faisons 3 activités. Les soins postpartum, le planning familial et le dépistage du cancer du col de l'utérus.
Postnatal check-up, family planning services and the screening cancer service.
Donc c'est une petite pièce divisée en 2, effectivement. Alors là, il y a une table de consultation. Il n'y a pas beaucoup de place, hein.
As you see, our house is very small.
Comme vous le voyez, c'est tout petit et on fait des soins à plus de 200 femmes par mois. On dépiste plus de 200 personnes dans cette salle.
Mais est-ce que vous pouvez travailler dans de bonnes conditions ou pas ?
Not in good conditions, because we want to serve, we do it.
Non, pas dans de bonnes conditions, mais comme on est là pour servir, on le fait.
Because if you see even the ventilation.
Mais regardez notre ventilateur, par exemple. Et on a un seul lit pour 2 services différents, le planning familial et le dépistage. Donc les gens doivent attendre, mais certains en ont marre, alors ils partent. Vous voyez, ça c'est l'équipement qu'on utilise pour le dépistage, pour voir si une femme est positive ou négative.
So is there equipment that you use only for screening? To see if this woman is positive or negative, we use this thing.
Mais ça c'est pour le cancer du col de l'utérus, c'est ça?
Yes, for cervical cancer. Our policy, our guidelines are see and treat.
Oui, c'est pour le dépistage du cancer du col de l'utérus. Notre politique, c'est regarder et traiter. Parce qu'on a tellement de patientes que si on trouve quelque chose, elles ne reviennent pas. Soit à cause des infrastructures, soit parce qu'elles ont peur. Si on leur dit de revenir plus tard, elles ne reviennent pas. Donc, notre politique, c'est regarder et traiter. Si on voit quelque chose qui n'est pas normal, on le traite directement ici. C'est comme ça qu'on fait. Au moindre changement, on fait de la cryothérapie. Vous savez, quand on fait un dépistage, on ne peut pas dire immédiatement « là, c'est un cancer ». Par contre, on peut voir s'il y a un changement. Mais pour le cancer, on doit faire des prélèvements, une biopsie. Le dépistage, c'est pour la prévention. Et il est recommandé à toutes les femmes qui ont débuté leur vie sexuelle. Parce que malheureusement, on a commencé la vaccination contre le papillomavirus que très récemment. Donc la plupart des personnes qui sont éligibles et qui auraient dû recevoir le vaccin ne l'ont pas eu. Donc nous avons fait du plaidoyer pour rendre le dépistage obligatoire pour toutes les femmes qui sont sexuellement actives. D'après les critères de l'OMS, cela concerne les filles de 9 à 21 ans. Mais nous, en Tanzanie, nous commençons avec les jeunes filles de 14 ans, parce que nous ne pouvons pas faire plus. Mais nous pensons qu'à 14 ans, les filles ont déjà une activité sexuelle. Et cela a commencé avec les patientes séropositives, car ces patientes sont plus susceptibles de développer un cancer du col de l'utérus. Nous, nous avons commencé avec notre politique regardée et traitée avec ces patientes séropositives, puis nous l'avons étendue à toute la communauté.
Et alors, quelle est la prévalence? Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des cancers du col de l'utérus? Est-ce que c'est fréquent? Et est-ce que les chiffres ont augmenté finalement ces dernières années ou pas?
Oui, les chiffres sont en constante augmentation et depuis l'année dernière, le cancer du col de l'utérus est le cancer numéro 1 en Tanzanie puisqu'il représente environ 25% des nouveaux cas de cancer. Puis vient le cancer du sein avec presque 10% des nouveaux cas. Ce sont les deux cancers qui provoquent le plus de décès alors qu'on peut les soigner s'ils sont diagnostiqués assez tôt. C'est pour cela que nous avons fait du plaidoyer pour favoriser le dépistage et les diagnostics précoces. Mais pour cela, et c'est une autre partie du projet, nous devons former les infirmières et les médecins pour faire ce dépistage et prendre en charge plus de patientes. Vous voyez, ici, elles sont environ 60 infirmières dans cet hôpital, mais seules quelques-unes ont été formées au dépistage du cancer du col de l'utérus. C'est pour cela qu'une partie du projet est consacrée à la formation des infirmières pour qu'elles soient en nombre suffisant pour réaliser un plus grand nombre de dépistages.
So part of the work of the project is to make sure that we increase more nurses who can do cervical screening.
Le docteur Sarah Maungesi travaille pour la Fondation Aga Khan, mais elle est aussi et surtout l'une des patientes de l'hôpital.
If you don't mind, I'll share my story. I'm a breast cancer survivor. I'm still on treatment. I'm still undertaking chemotherapy.
Si vous le voulez bien, je vais vous raconter mon histoire. Je suis une ancienne malade puisque j'ai eu un cancer du sein. Je suis toujours sous traitement et je finis bientôt ma chimiothérapie. Quand on me l'a diagnostiqué, c'était en mai 2021, cela a été un moment très compliqué pour moi. Trois personnes sont venues me voir. C'était des leaders religieux qui sont très importants dans notre pays. Et ils m'ont dit que ce que j'avais n'était pas un cancer. Ils m'ont conseillé de les rejoindre et qu'ils allaient prier pour moi. Deux d'entre eux étaient des leaders traditionnels et ils m'ont dit de refuser la chimiothérapie car selon eux, la chimiothérapie allait me tuer à petit feu en me détruisant le foie puis les reins. Vous voyez, il y a des croyances et de fausses rumeurs très fortes dans les communautés. Alors je leur ai dit, et c'est ce que je dis dans mes plaidoyers, « Ok, ce n'est peut-être pas une maladie, mais moi, de toute façon, je n'ai plus besoin de mon sein puisque je n'allaite plus, donc je veux bien prendre les médicaments. » Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est important de communiquer avec la communauté, mais qu'il ne faut pas les embarrasser parce que sinon, à la fin de la journée, ils vous disent que vous ne les écoutez pas et des choses comme ça. En ce qui concerne les idées fausses et les croyances, on s'aperçoit que les femmes sont discriminées parce que les principaux cancers dans le pays touchent les femmes, comme les cancers du sein ou les cancers du col de l'utérus. Et on sait que les cancers du col de l'utérus, par exemple, commence avec des écoulements liquides, des mauvaises odeurs et du sang. Et du coup, les hommes quittent leurs épouses. Ils disent que ce sont des sorcières et même qu'elles pourraient les contaminer parce qu'ils pensent que c'est une maladie infectieuse. Donc voilà tout ce que l'on entend comme fausse croyance dans les communautés. Et cela concerne tous les cancers, pas seulement le cancer du sein ou le cancer du col de l'utérus. Ils disent c'est infectieux comme le Covid ou Ebola et ils vous fuient et quitte le foyer. Donc, ce qu'il est très important de faire, c'est de démystifier toutes ces rumeurs et ces croyances pour ne plus qu'elles se propagent dans les communautés. Il faut s'appuyer sur les agents de santé communautaire pour expliquer aux gens et les emmener dans les dispensaires avant qu'ils ne tombent malades pour faire de la prévention. Mais du coup, il faut que le gouvernement fasse en sorte que les dispensaires soient prêts à accueillir ces gens. Ce n'est pas facile, je sais, parce que notre pays est grand et que nous avons une population d'environ 60 millions d'habitants, peut-être plus. Trouver des budgets est compliqué, car en plus, nous avons toutes les maladies comme le paludisme, la tuberculose, etc. Mais il faut prendre en compte toutes ces maladies non transmissibles, parce qu'il y a les cancers, mais aussi l'hypertension, le diabète, qui sont en constante augmentation. Et même si ce n'est pas facile, il faut faire quelque chose. Mais avec les connaissances, certaines personnes vont pouvoir faire de la sensibilisation pour éviter que les gens se retrouvent à l'hôpital.
Some people would start preventing these diseases before they go to the facility.
Je m'appelle Lucia Mushi, je suis en charge des problèmes de genre dans le projet global de lutte contre le cancer, ici, en Tanzanie. Mon rôle principal est de mettre en œuvre et de gérer le programme d'égalité hommes-femmes du projet.
Alors, quand on parle de cancer, justement, pourquoi une telle inégalité entre les hommes et les femmes ?
Ok, so when it comes to cancer disease, women.
Quand on parle d'une maladie comme le cancer, on doit se rendre compte que les femmes sont plus vulnérables que les hommes. Quand on parle d'accessibilité aux services de soins, par exemple, il y a des barrières pour les femmes. Par exemple, on sait que ce sont les femmes qui sont en charge de la santé de la famille. Et donc, elles sont très stressées dès qu'il s'agit d'avoir accès aux services de soins. Certaines femmes doivent parfois faire 90 km pour se rendre dans un dispensaire. Et elles estiment qu'il est injuste qu'elles aient à payer le transport puisqu'elles ne travaillent pas pour s'occuper de la famille. Donc c'est le genre de situation que le projet veut améliorer en permettant aux femmes de s'émanciper et de décider elles-mêmes s'il faut aller au dispensaire avec leurs enfants. Parce que c'est ce que l'on voit. Une femme est malade, mais ça n'est pas à elle de décider si elle doit aller à l'hôpital. Elle doit demander la permission à son mari de la laisser aller à l'hôpital. Donc on essaie de les autonomiser et de faire évoluer les hommes. On leur dit de laisser de côté leur masculinité et d'arrêter de croire qu'ils ne sont jamais malades pour qu'ils se rendent eux aussi dans des dispensaires. Et on incite les femmes à devenir plus autonomes pour prendre elles-mêmes les décisions. Mais pour cela, il faut qu'on leur donne les bonnes informations sur les maladies comme le cancer. En termes de croyances et de mauvaises pratiques, le projet prévoit des mesures pour réduire ces croyances, ces mythes, des informations autour du cancer. Comme par exemple, si tu as un cancer, c'est parce que tu es une sorcière, donc tu ne te fais pas soigner. Ça, ce sont des mythes, des fausses croyances que l'on veut réduire, voire éradiquer dans nos communautés. Pareil pour l'utilisation de produits de la médecine traditionnelle ou les croyances spirituelles autour des services de santé. Ce sont des choses que l'on veut diminuer en éduquant et en sensibilisant les communautés pour qu'ils aient accès au traitement contre le cancer.
Ça va prendre du temps. Augmenter le nombre de dispensaires dans chaque village, quand on connaît l'immensité de la Tanzanie, éduquer les femmes, ça prend du temps. Lutter contre les mythes, les fausses croyances, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Est-ce que vous l'avez, ce temps ?
Oui, c'est pour ça qu'on s'appuie sur les agents de santé communautaire, parce que les communautés ont confiance en eux et qu'ils ont été formés pour partager leurs connaissances sur cette maladie. On prévoit aussi de leur fournir du matériel pédagogique pour que les gens y aient accès et lisent eux-mêmes ces informations dans les communautés, dans les dispensaires, pour qu'ils changent d'avis sur les centres de soins. Mais comme vous l'avez dit, le changement de comportement prend du temps. Mais à terme, cela peut avoir un impact.
« Vous écoutez Priorité Santé sur RFI. Aujourd'hui, nous sommes en Tanzanie pour parler de la lutte contre le cancer. De plus en plus de cas dépistés. Et cette maladie est aujourd'hui devenue un véritable problème de santé publique dans le pays. Mais il faut compter avec les fausses croyances, les mythes, les dérives religieuses qui freinent la riposte et empêchent la population de cerner correctement cette maladie. Autant d'obstacles qui éloignent les patients des centres de santé et donc du dépistage et des traitements. Depuis un an, le projet global de lutte contre le cancer a été lancé. C'est une enveloppe de 13 millions d'euros qui doit être investie sur un total de 4 années. Un financement assumé principalement par la France via l'Agence française de développement et par la Fondation Aga Khan, le tout mis en œuvre par l'Institut Curie. Dépistage, traitement, amélioration des équipements et lutte contre la désinformation, un projet qui s'articule autour de plusieurs axes. Les défis de la lutte contre le cancer en Tanzanie. Voici maintenant la suite du reportage signé Igor Strauss.
Harrison Choa, bonjour.
Bonjour Igor.
Je profite de ce trajet en voiture vers un hôpital de district à une petite heure de Dar es Salaam pour vous poser quelques questions. Vous êtes donc médecin oncologiste, chef du département du service oncologie de l'hôpital Aga Khan et responsable national de toutes les activités de l'hôpital Aga Khan. Un petit mot sur ce projet de Tanzania Comprehensive Project. De quoi s'agit-il finalement ?
Tanzania Comprehensive Cancer Project is a very innovative project.
Le projet global de lutte contre le cancer en Tanzanie est un projet extrêmement innovant. C'est un partenariat public-privé qui a quatre objectifs principaux. Le premier, c'est de renforcer les infrastructures de nos services d'oncologie. Le deuxième, c'est de renforcer nos capacités, parce que l'on sait qu'après avoir renforcé nos infrastructures, nous aurons besoin de nouvelles ressources humaines pour mettre en œuvre nos nouveaux programmes. Donc nous voulons faire de la formation, à la fois au niveau, dans les petits dispensaires, mais aussi à l'hôpital. Pour l'instant, le projet soutient une centaine de centres de santé, 50 à Dar es Salaam et 50 à Mwanza. Le troisième objectif du projet, c'est la sensibilisation des communautés. Nous voulons atteindre les communautés en améliorant leurs connaissances sur le cancer pour démystifier les fausses croyances autour du cancer. Parce que la plupart des gens dans les communautés ne croient pas que le cancer soit une maladie. Ils pensent qu'on les a ensorcelés, car tout cela est associé à la magie noire, et donc ils ne vont pas dans les centres de santé. Ils vont voir des tradithérapeutes ou ils se tournent vers des médecines alternatives, car ils ne croient pas que c'est une maladie, et de toute façon, ils pensent que l'on ne peut pas en guérir. Donc, si on leur diagnostique un cancer, ils pensent qu'ils sont condamnés à mort et par conséquent, ils ont peur de se faire dépister. On voudrait donc lancer un programme novateur, une clinique mobile installée dans un camion avec un mammographe et une table pour les consultations gynécologiques afin de pouvoir faire des dépistages du cancer du sein et des cancers du col de l'utérus, et ce, dans les régions les plus reculées et les plus difficiles d'accès, pour que les gens puissent avoir accès à ces services, même s'il n'y a pas de dispensaire près de chez eux. Enfin, le quatrième objectif du projet, c'est la recherche de partenariats. Nous savons très bien que nous ne pouvons pas traiter les cancers tout seuls et qu'on ne peut pas non plus traiter les cancers sans avoir de données fiables qui doivent orienter nos projets. Donc la recherche est cruciale à ce niveau et nous espérons que ce projet pourra nous permettre de développer un réseau de cancérologie. Et nous pensons que ces quatre objectifs vont réduire automatiquement la mortalité et les morbidités des malades du cancer. Nous voulons réduire l'incidence de la maladie, ce qui signifie faire davantage dans la prévention communautaire et dans le dépistage. En termes de prévention communautaire, nous voulons développer la vaccination, notamment contre l'hépatite B et le papillomavirus. Nous savons que si nous développons la vaccination à grande échelle, comme nous avons commencé, nous parviendrons à faire baisser l'incidence des cancers du foie et du col de l'utérus. Nous savons également que ces interventions prennent du temps. Il nous faudra environ 30 à 40 années pour avoir une vraie idée de l'impact de la vaccination. Et dans le même sens, il faudra encore 10 à 15 ans pour mesurer l'impact de la sensibilisation que nous faisons autour des changements de mode de vie. Donc nous ne pouvons pas nous contenter de ces actions et ne rien faire de plus en termes de sensibilisation de dépistage et de traitement. Et puis nous avons réalisé qu'on a beau avoir la technologie, on a beau avoir les ressources humaines, si les gens ne vont pas dans les dispensaires, cela ne sert à rien. Donc on cherche à comprendre ce qui empêche les gens de s'y rendre. Est-ce une question géographique, car ils doivent peut-être parcourir de trop grandes distances pour avoir accès aux centres de soins? Est-ce une question financière? Ils n'ont peut-être pas les moyens. Donc voilà, ce sont des questions qui méritent des réponses.
Is it financial? Maybe they don't have the financial resources. So these are the issues that we really need to look into.
Priorité santé sur RFI.
Yo. Turn on nane. Kwa nini kesho? Si kesho. Tunatoka vene Robin Zima East bus mpaka CBD ndo mbogi mevisha drill 254 tunachofo scene sindo the trend NTV.
Bonjour.
Bonjour, donc je m'appelle Stéphanie Mouen, je suis directrice de l'AFD en Tanzanie.
Alors l'AFD, donc la France hein, finalement, qui donne, qui ne prête pas, qui donne 10 millions de dollars pour un projet ici en Tanzanie, c'est une première déjà le fait que ça soit un don et pas un prêt. Et puis alors la Tanzanie qui n'est pas un précaré français, on pourrait dire. Comment expliquer cela?
Alors effectivement, vous l'avez souligné, c'est une première, c'est un montant important, surtout dans un pays qui n'est pas le précaré français, hein, donc dans un pays anglophone. Ça s'explique pour plusieurs raisons. C'est déjà que l'AFD travaille avec le groupe Agacan dans la région et de manière beaucoup plus globale dans le monde sur différents projets. Et en Afrique de l'Est, l'AFD travaille avec le groupe Agacan dans le domaine de la santé depuis une dizaine d'années. Donc on a commencé en Tanzanie par un prêt, c'est-à-dire on a prêté 50 millions de dollars à l'hôpital de l'Agacan pour faire une extension de son hôpital principal à Dar es Salaam avec des centres de santé, 25 centres de santé dans l'ensemble de la Tanzanie. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller chercher les patients dans les régions plus isolées en Tanzanie. Donc l'hôpital a été inauguré en 2018 et on a commencé à discuter avec l'Agacan, qui est devenu un partenaire important en Tanzanie, sur d'autres projets, d'autres idées. Et ils nous ont fait part hein, de leur intérêt de travailler dans la lutte contre le cancer, puisque le cancer est devenu la sixième maladie en fait, la plus importante en Tanzanie. Donc bien entendu, les premières causes de décès en Tanzanie, c'est le VIH-Sida, le paludisme. Mais le cancer est une maladie qui est en train de grimper hein, en flèche avec la croissance démographique, avec le changement des modes de vie. Donc ils nous ont fait part de souhait de travailler avec nous sur le sujet. Et on a demandé à l'Institut Curie de travailler sur une étude de faisabilité pour préparer le programme en Tanzanie. Cette étude a été vraiment déterminante dans notre choix de financer ce projet en subvention, puisque l'Institut Curie a travaillé, a rencontré les hôpitaux publics, a été dans les régions, etc. Et ça a permis de faire en sorte que le programme ne soit pas seulement un programme avec l'hôpital de l'Agacan, qui est un organisme à but non lucratif, mais quand même un organisme privé, mais d'étendre le programme vers les hôpitaux publics, de travailler avec les hôpitaux publics, et aussi de faire en sorte d'avoir un programme intégré, c'est-à-dire d'aller à la fois de faire de la sensibilisation sur les principales causes de cancer, de faire du diagnostic. Et l'AFD a décidé de financer ce programme en subvention. Enfin, honnêtement, ça n'aurait pas pu être un prêt, hein, puisqu'il n'y a pas de rentabilité hein, sur ce projet, parce que l'hôpital de l'Agacan a un programme de subventionnement très fort pour les personnes qui n'ont pas les moyens de payer. C'est-à-dire qu'ils acceptent 30 à 40% du volume de leurs patients en subventionnant les soins. L'idée aussi, c'était de pouvoir avoir de la maintenance. Il y a beaucoup d'équipements qui sont remis dans des hôpitaux publics et qu'on découvre un an après ou deux ans après encore dans leur cellophane, soit non utilisés parce que les personnes n'ont pas les compétences pour se servir de la machine, soit deux ans, trois ans après, ils ne sont pas entretenus et donc ils ne peuvent plus être utilisés. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir accompagner les hôpitaux publics dans la formation aussi. Je n'ai pas parlé tout à l'heure de la formation, mais c'est vraiment un point important du programme. Et puis dans le suivi régulier, les possibilités d'entretenir les machines sur la durée. Et ça, on sait qu'avec l'Agacan, on est avec un partenaire qui pourra entretenir le programme sur 10 ans, 15 ans, 20 ans.
Et Pierre Anouri, le directeur des relations internationales de l'Institut Curie, revient maintenant sur les difficultés de la mise en œuvre d'un tel programme.
Alors le plus difficile, c'est d'ouvrir les yeux de nos collègues tanzaniens pour qu'ils comprennent que l'essentiel n'est pas l'achat d'une machine ou le fait de faire briller certains services, mais de repartir de la base, du terrain et du comportement des populations pour pouvoir le modifier. On peut acheter une très belle machine, mais si personne ne vient l'utiliser, on a un problème.
Donc, c'est ce qui se passe notamment avec la mammographie.
Alors c'est ce qui se passe avec la mammographie. Il y a un vrai problème pour l'accès aux soins des femmes pour plein de raisons, familiales, culturelles, des fantasmes par rapport à ce que signifie le cancer, par rapport au fait que se faire retirer le sein, ça, c'est compris pas du tout comme une solution thérapeutique, mais comme une catastrophe quasi spirituelle. Enfin, il y a tout un tas d'interprétations un peu ésotériques autour du cancer et des traitements et de leur agressivité qui font que les gens ne se rendent pas dans les centres de diagnostic et encore moins dans les centres de traitement.
Vous avez insisté auprès de la GACAN pour que les hôpitaux publics bénéficient également des fonds. Je pense notamment à l'Institut d'Ocean Road, l'Institut du cancer d'Ocean Road. Pourquoi il était important pour vous de munir en matériel le service public tanzanien?
Parce que c'est eux qui ont le plus de malades, c'est eux qui ont les stades les plus avancés, alors que les dispensaires à GACAN et les hôpitaux à GACAN attirent par leur standard et leur standing une population un peu plus aisée, plus éduquée, plus informée. Donc il fallait aller chercher les malades à la source.
Qu'est-ce qui reste encore à améliorer? On a vu, effectivement, là on est dans le tout nouveau bâtiment de l'hôpital à GACAN, on a vu du nouveau matériel dans les hôpitaux publics, mais encore quelques problèmes en termes de réactifs, en termes pour aller chercher les patients. Qu'est-ce qui, selon vous, est encore essentiel à améliorer?
Alors, ce qui est essentiel à améliorer, c'est de mettre de l'efficience dans l'ensemble du système. Autrement dit, qu'avec le même argent dont ils disposent, qu'ils obtiennent plus pour qu'ils se mettent en groupement d'achat pour baisser le prix des médicaments et des réactifs, qu'ils arrêtent de travailler chacun dans leur coin, qu'ils fassent des plateformes communes et partagées sur le plan technologique pour le diagnostic et qu'ils ne cherchent pas chacun à avoir la leur. Donc, on peut faire beaucoup avec ce que l'on a déjà, simplement en changeant l'organisation, pas en mettant plus d'argent.
Néanmoins, est-ce que la Tanzanie est sur la bonne voie pour la prise en charge des cancers?
Alors, la Tanzanie est en train, je dirais, de rattraper un retard et de se mettre en ordre de marche autour de l'axe est-nord-ouest, c'est-à-dire entre les deux grandes villes du pays, Dar es Salaam, la capitale, ou l'ancienne capitale économique, et puis Mwanza, qui est donc la deuxième ville du pays. Autour de cet axe, on est en train de véritablement structurer des services de grande qualité. À Mwanza, on construit un nouveau centre de lutte contre le cancer qui sort de terre et qui est très très bien avancé. À Dar es Salaam, les choses se mettent en place aussi. Donc on est en phase de rattrapage. D'ici 2 ans, on va passer de 6 à 14 appareils de radiothérapie. C'est quand même assez rapide comme croissance.
Igor Strauss, ce projet global de lutte contre le cancer peut-il se développer dans d'autres pays de la région, dans d'autres pays d'Afrique?
S'il est concluant en Tanzanie, oui. Alors pour l'instant, tous les acteurs du projet, gouvernement tanzanien, Agence française de développement, Fondation Agacan et Institut Curie, sont plutôt satisfaits. Et du coup, eh bien, il se murmure qu'un tel projet pourrait voir le jour dans d'autres pays d'Afrique de l'Est et du Centre. On parle du Kenya, de l'Ouganda et du Burundi, mais à l'heure actuelle, rien de concret. En revanche, des programmes similaires existent déjà au Liban et au Kazakhstan, Caroline.
Et pour conclure ce reportage, on va retrouver le docteur Sarah Mahongezi que vous avez entendu tout à l'heure lors d'une journée très spéciale pour elle.
Bonjour docteur Sarah.
Bonjour. Comment allez-vous?
Bah, ça va bien, c'est à vous qu'il faut demander.
Ça va bien.
Comment ça va?
Ça va bien, ça va bien.
Alors là, pour décrire, vous êtes assis dans votre fauteuil et vous recevez la dernière chimiothérapie. Comment on se sent quand c'est la dernière chimiothérapie, justement?
Oh, je me sens tellement bien. J'ai déjà fait 4 séances de chimiothérapie et c'était horrible, je peux vous le dire. Je n'arrêtais pas de vomir, j'avais mal à la tête, mal au ventre. Et là, je suis revenue pour la chimio de la semaine, mais c'est la dernière, donc je me sens vraiment bien, soulagée.
C'est toute une épreuve qui est derrière vous maintenant.
Oui, je sens que je suis guérie. La chimiothérapie a bien attaqué les cellules contaminées. Et là, avec cette dernière séance, je sens que je suis guérie. Avec la permission de Dieu, je peux dire que je suis guérie.
I can tell that I'm cured. Thank you.
J'imagine que bien que vous soyez médecin, il y avait quand même une certaine appréhension.
Yeah, as I said before, I went through a very tough time.
Oui, comme je vous l'ai déjà dit, je suis passée par des moments très durs. J'étais partagée entre les leaders spirituels, les leaders traditionnels, la médecine traditionnelle et la science. Mais comme je suis médecin, j'ai choisi la science, j'ai choisi la chimiothérapie. Et je pense que quelqu'un comme moi peut changer la façon dont les gens appréhendent le cancer. Au début, vous devenez très émotif, vous pleurez tout le temps, vous pensez que ça y est, c'est la fin de votre vie. Mais des gens meurent du Covid, des femmes meurent en donnant naissance à leur enfant, et moi, je suis là.
Est-ce que la maladie vous a appris quelque chose sur vous-même?
Yes, the disease made me learn about. Actually, I discovered this disease myself.
Oui, la maladie m'a beaucoup appris. Je peux dire que j'ai découvert qui j'étais. Je travaille à l'Institut du cancer d'Ocean Road depuis plus de 13 ans. J'ai appris aux femmes à se palper les seins pour détecter les tumeurs. Je leur ai montré comment inspecter leur poitrine dans leur bain. Et puis un jour, ça vous arrive à vous. J'étais dans ma douche, je me suis palpé les seins et là, j'ai senti une boule. C'était une toute petite boule, mais j'ai décidé d'aller faire une mammographie et c'est comme ça que j'ai découvert que j'avais un cancer. Avec cette maladie, le cancer, mon conseil n'est plus de faire des palpations jusqu'à ce que l'on découvre quelque chose. Non, il faut faire une mammographie tous les ans, quand c'est possible. Bien sûr, dans notre pays, nous avons un grand challenge, car il n'est pas possible de faire des mammographies partout. Une femme ne peut pas aller au dispensaire et dire « je veux faire un dépistage » juste comme ça. Mais voilà mon message aux femmes des communautés. Faites-vous dépister le plus tôt possible avant qu'il n'y ait des symptômes. Et en parallèle, j'ai un message pour les autorités. Nos dispensaires doivent être prêts parce qu'il n'est pas normal qu'une femme fasse des kilomètres pour aller au dispensaire faire un dépistage et qu'on lui dise qu'il n'y a pas de mammographe ou d'ultrason. Donc voilà mon message. On peut faire de la sensibilisation pour dire aux femmes de se faire dépister, mais il faut que cela soit possible.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant?
J'aimerais être encore là quand vous reviendrez dans 10 ans.
Vous avez une cloche là? C'est quoi cette cloche?
Cette cloche, c'est quelque chose que ceux qui sont allés exercer en Europe ou aux USA connaissent. Quand un patient a fini son traitement ou sa chimiothérapie, on sonne la cloche. Du coup, tous les autres patients et médecins dans les couloirs viennent féliciter le malade et lui dire « bravo, tu as fini ». Mais comme il n'y avait pas de cloche ici, j'ai décidé d'en acheter une pour la donner au service.
Bravo, docteur Sarah.
Les défis de la lutte contre le cancer en Tanzanie, un reportage d'Igor Strauss réalisé aujourd'hui par Olivier Roux. Demain, dans Priorité Santé, nous allons parler du mois sans alcool, janvier sobre ou dry January. Cesser de boire de l'alcool pour évaluer, cerner sa consommation et peut-être constater certains excès. Nous parlerons du diagnostic, de la lutte contre la dépendance à l'alcool et bien sûr un spécialiste pour répondre à toutes vos questions au 33 1 84 22 75 75. On se dit donc à demain. D'ici là, portez-vous bien et lavez-vous bien les mains.
C'était Priorité Santé avec Sunwa Assurance qui a le bon profil pour vous accompagner durant cette année d'excellence. Bonne année.